VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 25 février 2016. Au sommaire ce soir...
Élection au Niger, Mahamadou Issoufou en tête des résultats, mais parviendra-t-il à réussir son pari d'éviter un second tour? Nous avons sur place notre envoyé spécial Nicolas Pino.
Mission de l'Union africaine au Burundi, les cinq chefs d'État continuent leurs efforts en vue de désamorcer la crise.
Nous sommes déjà engagés dans le dialogue. Le plus important, c'est qu'il y a une plateforme qui est ouverte. Tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole sont les bienvenus.
Tournée africaine de Ban Ki-moon après le Burundi et la RDC. Le secrétaire général de l'ONU était aujourd'hui au Soudan du Sud.
Nous reviendrons ce soir sur le bras de fer entre le géant de la téléphonie mobile Apple et la Sûreté fédérale. Apple doit répondre au plus tard demain à la demande d'accès au portable du tueur de San Bernardino.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Crise au Burundi, la délégation de l'Union africaine, composée de cinq chefs d'État africains et de chefs de gouvernement, s'entretenait aujourd'hui avec les protagonistes de la crise, à savoir la majorité, l'opposition et la société civile. La délégation doit s'entretenir d'ici demain avec le président Pierre Nkurunziza. Les précisions de Christophe Nkurunziza.
Le ballet diplomatique s'est poursuivi ce jeudi à Bujumbura. La mission de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et ses homologues sud-africains Jacob Zuma, Sénégalais Macky Sall, Gabonais Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn sont déjà à Bujumbura. Cette délégation de haut niveau a été mandatée lors de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier dernier. Objectif, faire comprendre à leurs homologues burundais que le dialogue inclusif reste une priorité pour les dirigeants africains afin de mettre fin à plus de 10 mois de violence, principalement dans les quartiers contestataire de Bujumbura. Mais rien n'est dit si cette délégation de l'Union africaine va aborder la question épineuse de l'envoi d'une force de maintien de la paix au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Alors, qu'attendent les autorités burundaises de cette délégation? Le ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Alain Nyamitwe, s'est exprimé devant la presse.
Ils ont eu un mandat précis de la part du sommet de l'Union africaine qui a précisé qu'ils viendront s'entretenir avec les autorités burundaises, mais aussi avec les parties prenantes burundaises pour effectivement discuter des questions en rapport avec le dialogue. Or, nous sommes déjà engagés à pleine vitesse dans le dialogue inclusif inter-burundais. Il y a une plateforme qui est ouverte, sauf, bien entendu, ceux qui ont pris les armes. Parce que ça, c'est contraire à la résolution 2248 du Conseil de sécurité.
Le ministre burundais des Relations extérieures et de la Coopération, Alain Nyamitwe.
Burundi toujours, la répression du pouvoir s'est accrue ces dernières semaines et se déroule désormais à l'abri des regards, affirme Human Rights Watch, en appelant au déploiement d'une force de police internationale. L'ONG américaine accuse les autorités de s'en prendre avec une brutalité accrue aux opposants présumés. Les forces gouvernementales tuent, enlèvent, torturent et arrêtent arbitrairement de nombreuses personnes à un rythme alarmant, a déclaré l'Organisation de défense des droits de l'homme.
Quatre jours après le scrutin présidentiel au Niger, la commission électorale continue de publier les résultats. Selon des chiffres portant sur plus de 66% des bureaux de vote, le président Mahamadou Issoufou en tête avec près de 50% des suffrages. Deuxième à Mahamadou avec entre 15 et 17%, suivi de Seni Oumarou avec près de 10% des résultats. La coalition de l'opposition, la COPA 2016, a tenu un point de presse aussi du parti MNSD Nassara, le compte-rendu de notre envoyé spécial Nicolas Pino.
Oui, l'opposition nigérienne qui passe à l'attaque, nouveau point de presse de la coalition pour l'alternance qui dénonce notamment le site internet de la Commission électorale nationale indépendante, celui sur lequel les résultats sont affichés, eh bien selon les opposants nigériens, il n'est pas conforme aux résultats qui sont en réalité ceux des bureaux de vote et donc la COPA 2016 demande la suspension de ce site internet. Autre demande, la confrontation des procès-verbaux des bureaux de vote avec ceux centralisés au niveau communal et régional. Si les demandes de la COPA 2016 ne sont pas satisfaites, les opposants nigériens se réservent le droit de rejeter l'intégralité des résultats qu'ils jugent grotesques et fabriqués par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI qui met les bouchées doubles depuis jeudi matin pour publier les résultats. Et peut-être que ce soir, le Niger connaîtra enfin des résultats provisoires. Mais ces résultats risquent bien d'être fortement contestés. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
Mutinerie à Kidal, dans le nord-est du Mali. Deux casques bleus tchadiens ont été tués par un autre soldat qui se plaignait de ses conditions de vie au sein du contingent. D'après l'AFP, citant une source sécuritaire, le soldat mutin est aux arrêts. Il sera transféré demain, soit à Bamako, soit au Tchad. À noter que des dizaines de casques bleus tchadiens sont mécontents depuis quelques semaines de leurs conditions de vie et de travail dans le nord du Mali.
Les magistrats burkinabés sont en grève dans la rue depuis hier. Ils exigent des décrets d'application de leur nouveau statut. Mais en face, le gouvernement affirme qu'il ne cédera à aucune pression. Écoutons Maître Traoré Moriba, président du syndicat des magistrats, au micro de Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou.
Moi, je vais rester cohérent avec moi-même en tant que responsable syndical. Maintenant, s'il y a des options qui ont changé à son niveau et qui l'amènent à ne plus épouser les options qui peuvent être celles du syndicat, on va respecter sa position. Dans les différentes déclarations qu'on a été amené à faire, on a été clair pour dire qu'on est dans une lutte qui peut prendre du temps, mais dont les résultats devront intervenir pour qu'on puisse arrêter. Donc, s'il n'y a rien qui est fait, on va ajouter d'autres formules de lutte et il faudra peut-être laisser le temps préciser ces autres formules.
Maître Traoré Moriba, président du syndicat des magistrats burkinabés.
En Afrique du Sud, au moins trois grandes universités ont été fermées ce jeudi à la suite de violences, dont l'incendie volontaire hier de plusieurs bâtiments sur un campus. Une vague d'incidents vivement condamnés par le président Jacob Zuma. Jacques Aristide.
L'université du Nord-Ouest a fermé hier soir, pour une durée indéfinie, l'un de ses trois campus à Maïgeng, dans le nord du pays. Des étudiants sont accusés d'avoir mis le feu à plusieurs bâtiments, rapporte l'AFP. Pour le chef de l'État sud-africain, l'incendie de bâtiments universitaires est inexplicable et ne peut en aucun cas être toléré. Cela, ajoute Jacob Zuma, au moment où son gouvernement a fait de l'éducation une priorité pour la jeunesse. En début de semaine, l'université de Pretoria a été le théâtre de heurts entre étudiants noirs et blancs lors d'une manifestation pour dénoncer l'enseignement en afrikaans, la langue de la minorité blanche en Afrique du Sud. L'université de Free State à Bloemfontein a également fermé ses portes après des incidents raciaux sur fond de revendications sociales lundi soir lors d'un match de rugby sur le campus.
Dans le nord-est du Nigeria, un policier a été tué par l'explosion d'un engin piégé dans un commissariat de Yola. La police citée par l'AFP explique qu'il s'agissait d'une explosion accidentelle dans un dépôt d'armes. L'engin explosif avait été saisi au groupe islamiste Boko Haram.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé aujourd'hui au Soudan du Sud, où il a commencé à s'entretenir avec le président Salva Kiir, John Lennon.
À son arrivée en milieu de journée en provenance de Kinshasa, M. Ban a été accueilli à l'aéroport de Djouba, la capitale du Soudan du Sud, par le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Barnaba Marial Benjamin. Il a ensuite été reçu par le président Salva Kiir, avec lequel il devait évoquer les combats qui ravagent le pays depuis plus de deux ans et l'application de l'accord de paix signé en août 2015 entre M. Kiir et son rival Riek Machar, le chef de la rébellion. L'attaque des 17 et 18 février sur le camp onusien des déplacés de Malakal, la capitale de l'État du Haut-Nil, devrait également figurer au menu des discussions. M. Ban devait également visiter le camp des déplacés de Djouba, parler avec les ONG qui y travaillent et rencontrer des représentants de diverses agences onusiennes. Le Soudan du Sud est la dernière étape de la tournée africaine du secrétaire général de l'ONU qui l'a menée au Burundi et en République démocratique du Congo.
Crise migratoire en Europe, ils sont des centaines à prendre la route aujourd'hui à pied de la Grèce vers la Macédoine. Les autorités ont décidé de limiter le nombre des autocars autorisés à s'y rendre afin de ne pas aggraver l'encombrement à la frontière.
Le Parlement européen réclame un embargo sur les livraisons d'armes à l'Arabie saoudite. Dans une résolution non contraignante adoptée aujourd'hui, les députés européens condamnent les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie et le blocus naval qu'elle a imposé au Yémen, qui ont conduit à des milliers de morts et ont encore déstabilisé davantage le pays. L'organisation humanitaire Action contre la faim s'est aussitôt réjouie que l'Union européenne reprenne enfin la parole sur cette crise.
Une première en Afghanistan depuis l'implantation dans ce pays du groupe État islamique. 10 membres du groupe ont déposé les armes et rejoint le processus de réconciliation nationale, ont affirmé les autorités.
Les femmes atteintes du virus Zika peuvent continuer à allaiter leur bébé, estime l'Organisation mondiale de la santé. Au vu des preuves existantes, les bénéfices de l'allaitement maternel pour l'enfant et la mère surpassent tout risque de transmission du virus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est tout de suite avec Anastasie Tutiesh.
Selon l'agence APA News, la Banque mondiale vient d'octroyer au Burkina Faso une enveloppe de 30 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA pour la période 2016-2021. Ce fonds permettra de soutenir le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne, mais également de développer l'agriculture, l'accès à l'eau, la santé et l'enseignement supérieur. En marge du Congrès mondial de la téléphonie mobile, qui s'achève aujourd'hui à Barcelone, des organisations non gouvernementales ont organisé un congrès pour attirer l'attention sur les conditions d'obtention des matières premières nécessaires à la fabrication des téléphones. L'une de ces associations, le Réseau des organisations pour la République démocratique du Congo, accuse l'industrie de financer indirectement un conflit qui dure depuis plus de 20 ans. La République démocratique du Congo produit plus de la moitié du cobalt mondial utilisé pour les téléphones portables. Environ 20% provient de mines artisanales dans le sud du pays, où les travailleurs l'extraient à la main, sans outils ni protection, a ainsi dénoncé Maria Cañadas, présidente d'Amnesty International pour la Catalogne. Réunion du G20 à Shanghai, en Chine. Demain et après-demain, les ministres des Finances et représentants des banques centrales des 20 plus grandes puissances mondiales plancheront notamment sur les multiples risques qui menacent l'économie mondiale, l'essoufflement des pays émergents et la chute des cours des matières premières. Les 20 restent toutefois divisés quant aux réponses à apporter.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi.
Nous parlons FIFA, football, une élection en terrain miné.
9 mois dans la tempête, l'image de la FIFA a été écornée et restée embourbée dans la pire crise de son histoire sur fond de soupçons de corruption. Le vote, c'est demain. 2 têtes d'affiche, Infantino et Salman, se démarque Gabi du club des 5 candidats en lice.
C'est l'Europe face à l'Asie. La Liga, Zidane, Simeone, le derby des idoles.
Ah oui, 2 icônes face à face, Zizou et El Cholo vont confronter leur style dans le derby madrilène samedi en championnat d'Espagne. Et côté supporter du Real, ZZ reste l'homme de la novena, la 9e Ligue des champions dans l'histoire du club. Remporté avec une volée d'anthologie du français en finale en 2002, Gabi, ça me rappelle la série radiophonique Anthologie du mystère.
Oui, et ce n'est pas trop dire, Eric. Robert Pires annonce de son côté sa retraite. Il est le dernier champion du monde, 98 à le faire.
Le principal fait d'armes du milieu offensif français d'avoir adressé la passe décisive pour le but en or marqué par David Trezeguet. En finale de l'Euro 2000 face à l'Italie 2-1, la mort subite. Robert Pires faisait partie de l'équipe des Invincibles avec les Gunners d'Arsenal qui avaient terminé Gabi la saison 2003-2004 sans défaite.
Jeux Olympiques 2016, Australie, les athlètes interdits de favelas par leur comité olympique.
C'est pour des raisons de sécurité que le comité olympique australien a interdit à ses athlètes de se rendre dans les favelas de la ville pendant les Jeux Olympiques en août. Une décision qui lui a attiré les foudres de la mairie de Rio qui a dénoncé ce qu'elle a qualifié d'agressivité à l'égard du Brésil.
Résultat d'hier du championnat nord-américain de basket, la NBA.
Clippers ont perdu contre Denver. Sacramento est tombé devant San Antonio. Dallas a été vaincu par Oklahoma City. Détroit a gagné contre Philadelphie. Miami n'a pas démérité malgré son échec face au tout-puissant Golden State. Belle performance de Toronto contre Minnesota. Chicago a décroché la partie contre Washington. Memphis l'a emporté contre Lakers. Cleveland a battu Charlotte. Indiana a devancé New York de 3 points. Et Cleveland et Toronto dominent à l'Est, tandis qu'à l'Ouest, Golden State reste en tête, suivi de San Antonio, ton équipe, Gabi.
Merci, Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil, de retour avec vous. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Niger.
Oui, on repart au Niger où notre envoyé spécial s'est intéressé au bouleversement de la religion musulmane dans le pays. Au Niger, pays musulman à 98% selon les chiffres du gouvernement, la religion s'est modernisée. Reportage à Niamey de Nicolas Pinot.
Au Niger, les mosquées sont partout, de la petite salle de prière de quartier à la sublime grande mosquée de Niamey, la religion musulmane est omniprésente dans ce pays sahélien de près de 18 millions d'habitants. L'islam y est d'inspiration soufie et les confréries ont joué un rôle important jusqu'à la colonisation. Jean-Pierre Olivier de Sardan est socio-anthropologue à l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey.
Bien sûr, il y avait avant, sous la colonisation, la confrérie principale, c'était la quadrilla. Mais elle a presque disparu, elle a vraiment perdu beaucoup. Aujourd'hui ici, c'est comme au Sénégal, la Tidjania réformée, hein, Niassène. Donc c'est la Tidjania qui est en lien direct. Ici, c'est Kiota, la principale place forte de cette confrérie tidjane, mais qui est directement liée au Sénégal. Donc c'est cette confrérie tidjane qui est actuellement la plus importante de très loin de ce que l'on a appelé l'islam confrérique de type soufi, si vous voulez.
La religion musulmane subit depuis 30 ans de profonds bouleversements. L'islam traditionnel est bousculé, comme l'explique Abdoulaye Sounaï, chercheur au Zentrum Moderner Orient de Berlin et spécialiste de l'islam au Niger.
Je dirais jusqu'à la période de la démocratisation, c'est-à-dire jusqu'en 1991-92, c'était un islam monolithique. Il y avait une seule association qui régulait pratiquement tout le champ islamique. Donc il n'y avait pas de compétition en tant que telle. Mais avec la démocratisation, donc le pluralisme islamique aussi, le champ islamique est devenu un champ de compétition.
Concurrence confessionnelle et l'arrivée des nouvelles technologies de l'information qui a aussi entraîné un meilleur accès aux textes religieux qui étaient jusqu'alors assez limités. Les livres étaient très chers à importer d'Arabie Saoudite ou de Libye. Mais cette démocratisation, voire vulgarisation du savoir, a aussi entraîné le développement de prêcheurs de rue dont le niveau de connaissance du Coran varie sensiblement, comme le regrette Boubacar Seydou Touré, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger.
C'est comme quelqu'un qui n'a pas son permis, mais quand vous lui donnez une voiture, ne maîtrisant pas la règle routière, mais il va tuer des gens. Ceux qui n'ont pas de grands bagages et qui se mettent à vraiment prêcher dans la rue, c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, pour être un bon prédicateur, il faut connaître ta religion. Vous savez, au temps de feu général Sénou Kounté, l'islam était réglementé. De nos jours, il n'y a plus d'autorisation de prêche.
Autre phénomène qui bouleverse l'islam traditionnel au Niger, c'est le mouvement Izala. Mais nous en reparlerons demain dans le prochain volet de cette série. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Et c'est par les alliances stratégiques que l'Afrique avancera dans son développement. Telle est la vision du forum Africalia, dont la quatrième édition s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Plus de 400 entreprises issues des quatre coins du monde participent à ce forum qui a lieu durant 48 heures, réseautage et réflexion autour de la problématique de l'énergie en Afrique. De Ouagadougou, la correspondance de Issa Napon.
et de 4 pour ce forum qui a gagné son pari de réunir encore une fois, et ce, malgré les événements dramatiques que le Burkina a vécu il y a quelques semaines, 450 participants venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie principalement, avec un même objectif, nouer des partenariats gagnant-gagnant et prospecter des domaines d'investissement. Adama Traoré, membre de la délégation spéciale de la Chambre de commerce burkinabé.
Une plateforme qui permet à des hommes d'affaires de se rencontrer à travers des rencontres B2B sur la base de besoins préalablement exprimés. C'est une des forces d'Africalia. Donc, avant de venir, vous avez choisi des gens que vous souhaitez rencontrer et des gens ont choisi de vous rencontrer. Et vous êtes sûr d'atteindre les résultats auxquels vous attendez.
La présence d'un important nombre d'investisseurs qui réjouit le Premier ministre burkinabé, Paul Kabatieba.
Africalia attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, ce qui est bien pour l'économie nationale, parce que ce sont les entreprises privées qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Et ce que nous devons poursuivre, faire en sorte que l'environnement des affaires chez nous soit attractif. Alors, c'est un ensemble de facteurs qui sont mesurés par l'indicateur Doing Business. Je prends l'engagement de faire en sorte que d'ici un an, le Burkina Faso soit dans le top 10 des pays africains.
Africalia a toujours accouché de partenariats suivis, rassure François Villain. Elle est la déléguée générale de Futuralia, forum d'affaires français de Poitiers.
Habituellement, sur 6000 rendez-vous, 80% donnent lieu à des échanges ultérieurs. La majorité des contacts sont des contacts commerciaux. Ça, c'est les partenariats les plus fréquents. Mais on a aussi beaucoup de partenariats techniques, concevoir ensemble un produit, des partenariats financiers. L'intérêt d'Africalia, comme de Futuralia, c'est le même produit en fait, c'est d'être multisectoriel.
L'énergie est le thème qui focalise l'attention des participants. Un problème énergétique encore plus accru en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso, où l'État fait face à de réelles difficultés de fourniture en électricité, reconnaît le Premier ministre burkinabé.
Nous avons un coût de l'énergie qui est trop élevé. Nous sommes dans l'Union économique et monétaire ouest africaine, les pays là où le coût de l'énergie électrique est le plus élevé. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on travaille en développant par exemple le solaire, à faire en sorte que le coût moyen du kilowattheure d'énergie soit bas et que ça puisse attirer donc plus d'investisseurs étrangers. Et voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui, pour encourager les hommes d'affaires qui sont venus en dépit d'un environnement régional et puis national qui a pu être perturbé par les attentats. Les rassurer, c'est la volonté du gouvernement de créer un cadre, un environnement qui leur permet de faire des affaires.
Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Nous partons maintenant à Kinshasa. La conférence internationale sur l'investissement privé dans les Grands Lacs s'est ouverte hier dans la capitale de la République démocratique du Congo en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Ce forum vise à promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et à contribuer effectivement à la paix et à la stabilité durable dans la région. Le Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, voici le reportage de Roger Kalala.
La conférence de Kinshasa devrait aider à tourner définitivement la page sombre de la violence dans la région des Grands Lacs. C'est le président Joseph Kabila qui l'a dit à l'ouverture des travaux. La région des Grands Lacs a pour le moment le regard tourné vers l'avenir et le président de la RDC a émis le vœu de voir les économies se développer dans la sous-région.
J'ai bon espoir que ces assises permettront une véritable interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national, régional et international, réunis dans cette salle, en vue de consolider la montée en puissance de la croissance en cours dans la région, de matérialiser la création des emplois et de tourner ainsi définitivement et de manière irréversible la page sombre de la violence dans notre espace régional.
Et le secrétaire général de l'ONU a relevé que les pays de la région des Grands Lacs offrent plusieurs possibilités aux investisseurs avec un potentiel immense. Ban Ki-moon a déclaré qu'il ne suffit pas de régler les problèmes sécuritaires pour développer la région des Grands Lacs.
On le sait, la région possède d'abondantes ressources naturelles, mais on sait moins que ses habitants sont très travailleurs. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Il faut une bonne gouvernance. un État de droit.
Bien avant Ban Ki-moon, le président de la Fédération des entreprises du Congo a indiqué que l'intégration économique au sein de la région reste faible. Albert Yuma a identifié quelques défis à relever pour parvenir au développement économique. Il a notamment parlé de la consolidation de la paix et du développement d'un réseau routier et ferroviaire régional.
Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa en RDC.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le débat continue autour du litige entre le FBI et Apple sur l'accès aux données privées. Cette semaine, un juge américain a ordonné à Apple d'aider le FBI à décrypter le téléphone du meurtrier de 14 personnes à San Bernardino, en Californie, ici aux États-Unis. Ce à quoi s'oppose Apple. Eddy Sango a joint à Dakar le rédacteur d'Afrique IT News et programmeur analyste Sadi Bousseau.
La problématique est plus complexe parce que pour Apple, ça représente d'abord un risque énorme parce que les données aujourd'hui représentent pour la plupart de ces entreprises, des entreprises comme Google, Microsoft qui ont pris parti avec Apple, les données représentent de l'or. C'est-à-dire que si aujourd'hui ces données dont ils disposent sur les utilisateurs sont accessibles par quelqu'un d'autre, c'est des milliards et des milliards de dollars qui potentiellement leur passe sous la main. Le FBI finalement demande la mise à disposition des données de 12 téléphones. Donc comme le disait le directeur de Apple, ça commence par un téléphone et finalement après tous les téléphones des utilisateurs pourront être visités par des hackers ou des gouvernements mal intentionnés. Alors à mon avis, la problématique elle est beaucoup beaucoup plus compliquée que simplement des données d'utilisateurs. Je pense que c'est trop simple de penser qu'Apple ne se débat que pour ses utilisateurs. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça derrière les motivations de l'entreprise américaine.
Est-ce que vous pensez que si Apple cédait en donnant la clé de décodage au FBI, ce serait donner la clé aux pirates et ainsi perdre toutes ces années de recherche, tous ces investissements qu'ils ont mis pour protéger les utilisateurs d'Apple?
Je serais vraiment présomptueux de penser que dans le monde, personne n'est aujourd'hui capable de débloquer les téléphones d'Apple.
Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais les FBI gagnaient cette bataille, ce serait ouvrir une porte pour les jeunes démocraties ou même pour l'Afrique où on sait de pouvoirs en place vont imiter cet exemple?
Apple accepte de donner une porte dérobée sur les téléphones que l'entreprise construit. Ça ne change pas grand-chose dans l'environnement africain. De toute façon, les données privées sont à la merci des gouvernements. S'ils ont une équipe assez performante pour réussir à identifier les personnes, ce qui pour la plupart des gouvernements est le cas.
Sadi Bousseau, programmeur, analyste, rédacteur d'Africa IT News.
Cette semaine, vous et nous suit un maître tambour burkinabé à New York, la première coureuse cycliste africaine, et oui, ça existe, et apprend à danser le tango et la salsa. Les téléspectateurs ne sont pas en reste. Dans On dit quoi, chacun montre son pas de danse préféré. Et puis, il sera question de nourriture avec l'Anglais Express, mais aussi dans la toute nouvelle rubrique. Elle s'appelle Arôme. À bientôt.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de ce soir, Lionel Gaïma. Mr. Coches était égal à lui-même à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, si vous voulez partager des photos sur ce qui fait l'actualité chez vous, notre page Facebook VOA Afrique est à votre disposition. Et pour plus d'infos 24 sur 24, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.